Disque.
Bonjour à Ouagadougou, midi à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA demande à son tour la levée de la zone de sécurité mise en place par la MINUSMA, la mission onusienne autour de Kidal dans le nord du pays. L'ex-rébellion à dominante Touareg dit avoir les moyens nécessaires pour sécuriser elle-même les populations locales. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est dans un communiqué que la CEMA fait sa première déclaration après les affrontements d'Anéfis. Pour elle, ce sont les milices pro-gouvernementales qui tentent de reconquérir de nouvelles positions tenues depuis le cessez-le-feu du 23 mai 2014 par elle. La CEMA parle de violations flagrantes des arrangements sécuritaires et des termes de l'accord de paix signé le 15 mai et le 20 juin 2015. La coordination des mouvements de l'Azawad dit avoir pris note de l'instauration d'une zone de sécurité de 20 km autour de la ville de Kidal. Elle a également pris note du communiqué du gouvernement malien à la date du 18 août, regrettant l'instauration d'une telle zone de sécurité. Par conséquent, la coordination des mouvements de l'Azawad demande à l'AMINUSMA de lever expressément et dans les meilleurs délais toute zone de sécurité établie tout autour de Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Mali toujours, c'est aujourd'hui que doit prendre fin la grève de 72 heures dans le différend qui oppose la direction de l'hôpital Gabriel Touré à Bamako au comité syndical de la santé, l'action sociale et la promotion de la femme. Notre correspondant sur place, Kassim Traoré, nous en dit plus.
Le centre hospitalier universitaire Gabriel Touré est l'hôpital le plus fréquenté au Mali grâce à sa proximité avec la population. La grève qui a débuté le 18 août a amené des mécontents. Nous sommes venus le premier jour. Il y avait la grève, on a été obligés de retourner à la maison. Aujourd'hui, il y a aussi des problèmes car nous n'avons personne qui s'occupe de notre patiente. Les grévistes nous ont dit de retourner avec nos malades. Les syndicalistes ont certes des revendications d'ordre matériel, d'amélioration des conditions de leur vie. Mais un tour dans l'hôpital nous a permis de voir d'autres réalités. Jimmy Kanté, membre du syndicat de l'hôpital Gabriel Touré.
Nous avons des revendications qui auraient dû être portées par la société civile malienne et non par un syndic. Gabriel Touré est le seul hôpital à ma connaissance au Mali où au chevet du malade, vous allez voir des cafards, vous allez voir des insectes de tout genre dans la salle d'hospitalisation au chevet du malade. Faites-le tout. C'est dans la cour de l'hôpital Gabriel Touré que vous allez voir des eaux usées qui quittent des toilettes pour être déversées directement dans la cour. À Gabriel Touré aujourd'hui, vous venez pour avoir des soins, mais vous retournez avec des maladies beaucoup plus compliquées que ce qui vous a amené.
Si la direction de l'hôpital Gabriel Touré conçoit que la grève est un droit pour les uns, elle n'en est pas moins consciente que la liberté de travailler en est pour d'autres. Professeur Kassoum Sanogo, directeur général de l'hôpital Gabriel Touré.
Les malades sont arrivés à l'entrée et se sont butés ou piqués de grève qui ne voulaient pas les laisser passer. Ce qui a motivé le recours qu'on a fait au commissariat du premier arrondissement qui nous a envoyé un renfort pour libérer les accès de l'hôpital. Je peux dire que les effets pervers de cette grève ont été très limités.
Le syndicat dit avoir mis en place un piquet de grève à l'entrée de l'hôpital et non d'empêcher son accès aux patients. Jimmy Kanté, membre du syndicat de l'hôpital Gabriel Touré.
Nous sommes à la porte et nous sommes avec des dépliants contenant des informations sur la grève. Nous n'avons jamais, et j'insiste là-dessus, empêché un quelconque malade d'accéder à l'hôpital.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, 9 ans, jour pour jour hier, depuis que le navire Probokoala a déversé à Abidjan plus de 500 tonnes de déchets toxiques. Incident qui a fait plusieurs morts par contamination. Que fait le gouvernement du président Alassane Ouattara pour compenser les victimes? Au micro de Bagassi Koura, la réponse d'Assi Adou Nicodème, président des fédérations des associations des victimes des déchets toxiques.
Je peux dire que le nouveau gouvernement a fait quelque chose. Ce gouvernement doit aller jusqu'au bout de ses actions et c'est ce que nous attendons. Il y a des sites qui n'ont pas été décontaminés. Ce même gouvernement Alassane, au cours d'un conseil des ministres, a dit que tous les dossiers de déchets toxiques seront traités. et nous lui faisons confiance pour que ce dossier soit traité. On a quelque part des élections. Nous demandons au gouvernement Ouattara de nous aider pour que les 80 000 victimes de la base de données nationale soient indemnisées.
Les populations qui vivent autour de ces sites pendant longtemps ont été inquiètes. Comment est la vie en ce moment dans ces sites proches des lieux de déchets toxiques?
Il y a des problèmes récurrents qui ont augmenté, c'est-à-dire des cas de fausses couches, des cas de malformations, des nouveaux-nés.
Si Adou Nicodème, président des fédérations des associations des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a prêté serment aujourd'hui à Bujumbura pour un troisième mandat à la tête du pays, un mandat très controversé. L'annonce de la candidature du président ayant provoqué une crise politique qui s'est intensifiée après sa victoire dans un scrutin présidentiel le 21 juillet boycotté par l'opposition. Les opposants ont affirmé que la situation dans le pays ne permettait pas des présidentielles libres, transparentes et équitables. Et ils estiment aussi que Pierre Nkurunziza n'avait pas le droit de briguer ce qu'ils appellent un troisième mandat contraire à la Constitution qui limite à deux le nombre des mandats présidentiels. Mais la Cour constitutionnelle du Burundi, rappelons-le, a statué que le président avait le droit de se représenter parce qu'il avait été élu par le Parlement et non par au suffrage universel lors de sa première accession à la magistrature suprême. En RDC, incident sécuritaire aux environs de Mutarule, au sud Kivu, près de la frontière du Burundi. Bilan de morts et un blessé grave. Plus de détails avec notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero.
Deux bergers appartenant à la communauté des Barundi de la plaine de la Rusizi viennent d'être assassinés ce mercredi par un groupe de bandits armés dans la plaine de la Rusizi. Selon plusieurs sources concordantes, l'attaque a eu lieu vers 15h à Tengetenge, un site de pâturage de vaches situé entre la localité de Luberizi et Mutarule en territoire d'Ouvira. Un troisième berger a été blessé grièvement par balle pendant ses échauffourées. En cette période, le pâturage se fait rare dans la région et les éleveurs sont obligés d'aller plus loin que d'habitude. D'aucuns s'interrogent si ces cas de banditisme aux environs des Mutarule n'est pas susceptible de traumatiser davantage les retournés des Mutarule qui ont moins d'une semaine de retour dans leur village natal. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
En RCA, trois casques bleus mis en cause dans trois nouveaux cas de viol, une semaine après le renvoi du général Babacar Gaye, chef de la mission onusienne MINUSCA, pour des faits similaires. Tatiana Mosso.
Ces nouvelles allégations font état du viol de trois jeunes femmes par trois membres d'un contingent militaire de la MINUSCA, a déclaré une porte-parole de l'ONU. Les viols auraient eu lieu il y a quelques semaines et ont été signalés par les familles des victimes à la MINUSCA le 12 août. Ces accusations s'accumulent en Centrafrique. Il y a quelques mois, des rapports successifs avaient accusé des soldats de la MINUSCA d'abuser d'enfants des rues à Bangui. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait qualifié les cas d'agression sexuelle de cancer dans notre système, prenant une décision sans précédent qui a abouti à la démission forcée de Babacar Gaye. Forte de 12 000 casques bleus, la MINUSCA fait face à 57 allégations de fautes, dont 11 concernent des cas potentiels d'abus sexuels sur des enfants.
En Syrie, le groupe État islamique a décapité le directeur du service des antiquités de Palmyre. Information confirmée par le directeur des antiquités de Syrie. Claire Morin-Gibourg.
À 82 ans, Khaled al-Assad se savait menacé par le groupe État islamique. Celui qui fut le chef des antiquités de Palmyre de 1963 à 2003 a été exécuté par les djihadistes mardi après-midi dans la célèbre ville antique de la province centrale de Homs, ville qu'il chérissait et qu'il avait refusé de quitter. Mahmoud Abdelkarim, directeur général du département des antiquités et des musées de Syrie, a confirmé son exécution à l'AFP, se désolant de la perte de l'un des plus éminents experts du monde antique. Des sites djihadistes ont justifié son assassinat, affirmant que M. Assad avait été le directeur des idoles à Palmyre. La version rigoriste de l'islam sunnite, prônée par le groupe État islamique, considère les statues humaines ou animales comme de l'idolâtrie. Palmyre est tombée fin mai aux mains des djihadistes. Cette cité, qui fut l'un des plus importants foyers culturels de l'Antiquité, abrite des ruines ancestrales classées par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Depuis, la communauté internationale craint que le groupe État islamique ne détruise ses nombreux trésors archéologiques, à l'instar de ce que le groupe extrémiste sunnite a fait en Irak.
En Italie, les drapeaux sont en berne aujourd'hui dans les musées publics en hommage à Khaled al-Assad. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture. Et puis l'UNESCO, la France et les États-Unis ont dénoncé hier ce qu'ils ont qualifié de meurtre brutal perpétré par des barbares. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et aussi sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Personnali, 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 personnali.